Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur les ondes de Média en cette journée spéciale pour célébrer la fête du trône. Et comme chaque mardi, on retrouve notre magazine du développement durable. Alors c'est un sujet qui a été au cœur du discours royal hier soir à l'occasion de cette fête. La sécheresse et ses causes, ses conséquences et les solutions et mesures à prendre pour prévenir la pénurie de l'eau. Et le souverain a cité à ce propos le développement des usines de dessalement d'eau de mer. Alors que le Maroc subit sa 6e année consécutive de sécheresse, le sujet est plus que crucial, vous l'aurez compris. Le royaume enregistre un déficit pluviométrique de 70% par rapport à la moyenne, selon le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka. Dans le cadre du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et irrigation 2020-2027, l'objectif est d'atteindre d'ici 2030 environ une vingtaine de nouvelles stations, en plus des 12 déjà en activité. Alors une station de dessalement d'eau de mer, comment ça fonctionne? Illustration à l'OSEMA, l'unique usine de la côte méditerranéenne. Verdict?
C'est bon, pour moi c'est bon, parce que je vais sur ça.
Comme le sentiment du travail accompli lorsqu'il termine son verre d'eau, Ali Hadi, le chef de l'usine, a le regard satisfait. Il faut dire que la tâche est de taille, fournir de l'eau potable à quelques 200 000 habitants répartis dans plusieurs localités de la province d'Al-Hoceima. Alors comment en est-on arrivé là? L'ingénieur nous emmène à la toute première étape, le forage de l'eau souterraine à 4 km de la station de dessalement.
Où est-ce qu'on se dirige là?
On se dirige vers les forages côtiers qui sont au niveau de la plage, qui alimentent la station de dessalement en eau brute.
Sur place, 6 cabanes pour 6 forages situés à seulement quelques mètres de la plage de Sfiha. Dans ce décor de carte postale, on est loin d'imaginer l'existence de telles installations. Ici, on ne récupère pas l'eau de mer directement, mais l'eau des nappes de la
côte. On va visiter l'un des forages là, le numéro 1. Pour voir comment il est équipé. Il y a là le poste de transformation, les cellules électriques, le local d'armoire électrique. On va ouvrir les portes pour voir. On voit des conduites, on voit le tube de forage, une pompe immergée. Il y a un débitmètre pour le comptage de la quantité d'eau pompée ici. Donc c'est classique. Sans sécheresse, avec sécheresse, cette eau elle est toujours disponible. Ça alimente la station en continu, okay. 24 sur 24.
Dans ces forages, 200 litres sont pompés chaque seconde, soit 17 280 mètres cubes en une journée.
C'est la salle des armoires de commande du groupe de forages. Les 6 forages ils sont commandés localement ici, manuellement pour régler, démarrer, ou bien on peut les démarrer au niveau de la station moyennant un système de télégestion.
La prochaine étape se passe sur le site de la station directement avec le premier filtrage de l'eau.
Les grands cylindres, ce sont des filtres pleins de sable, donc l'eau elle transite pour qu'elle soit filtrée. Vous voyez, chaque filtre il est équipé d'un débitmètre, c'est un compteur qui comptabilise la quantité d'eau. Une fois cette quantité est réduite, on doit l'arrêter et l'isoler et le laver.
L'eau passe ensuite dans des membranes, c'est la technique de l'osmose inverse, un système de purification qui permet d'extraire tout le sel.
Après, il y a des pompes boosters qui donnent du débit pour transiter au niveau des membranes. C'est-à-dire l'eau, il peut monter 560 mètres à une grande pression pour éliminer tout ce qui est sel au niveau des membranes.
À ce moment précis du processus, l'eau est tellement purifiée que notre organisme ne peut même pas la digérer. Alors pour la rendre potable, il faut la reminéraliser, c'est-à-dire ajouter du CO2 et de la chaux. Et avant d'être acheminée dans les robinets de la population, un contrôle est nécessaire. Direction le laboratoire où Radija Margri s'assure que l'eau peut être bue sans risque.
Donc à chaque étape de dessalement, on fait des analyses de chaque échantillon. On part des analyses bactériologiques. Là, c'est la salle de préparation des milieux de culture. Là, on cherche des germes comme les entérocoques intestinaux, les coliformes, Escherichia coli, et Clostridium. La salle d'incubation et confirmation, c'est une étape d'analyse bactériologique. Aussi, après l'ensemencement, on passe à la salle d'incubation, c'est-à-dire on maintient la température convenable aux germes pour se multiplier.
À la fin de tout ce cheminement, de l'eau très concentrée en sel est rejetée dans la mer, c'est ce qu'on appelle la saumure. Selon l'ONE, le projet a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental pour être conforme aux directives en vigueur. Pour Fouad Emraoui, professeur-chercheur en hydrologie à l'université Hassan II de Casablanca, dessaler l'eau de mer devait s'imposer dans un pays qui subit sa 6e année de sécheresse consécutive.
On est allé vers le dessalement, ce n'est plus un choix, c'est une obligation, parce que l'eau de pluie fait défaut. Jusque-là, même en année de sécheresse, l'eau potable urbaine n'a jamais été touchée, puisqu'elle ne représente que 10% de nos ressources en eau. Depuis 2019, nous avons 6 années de sécheresse récurrente, et même ces 10% ne sont plus assurés dans beaucoup de régions, parce qu'on a des taux de remplissage au niveau des barrages qui sont très bas. On ne va vers le dessalement que quand on est obligé de le faire. Parce que le dessalement, ça reste un dernier recours, parce que c'est coûteux, parce qu'il faut maîtriser la technologie, parce que c'est énergivore, ça consomme énormément d'énergie. Donc tout ça, ça peut être des freins.
En tout cas, ça ne l'est pas pour la station de dessalement d'Alhucema. D'ici le mois d'octobre, elle a pour vocation de s'étendre. Alors que l'usine produit en ce moment 6,3 millions de mètres cubes par an, elle envisage de fournir 7,7 millions de mètres cubes, soit 45% des besoins en eau dans la province.